Radio Trois-Mâts, Radio Blabla. Ce n'est pas qu'un bateau.
Aujourd'hui, c'est Radio Trois-Mâts, Radio Blabla.
Radio et c'est pas un bateau.
Radio Blabla, et ce n'est pas qu'un bateau.
Bienvenue, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril pour le printemps du réemploi au Trois-Mâts. Donc voilà, c'est une journée organisée par l'association La Maison de Quartier du Trois-Mâts. Nous sommes ici pour parler du réemploi, tout ce qui en coule, notamment le troc et autre chose. Mais d'abord, qu'est-ce que le réemploi ? Aujourd'hui, nous sommes là pour ce printemps du réemploi. Je ne vais pas définir le printemps, tout le monde sait ce que c'est. C'est la deuxième saison de l'année, la période où les arbres fleurissent, les oiseaux chantent, les abeilles butinent. Cela annonce l'été, mais avant que l'on crame, qu'on oublie de mettre de la crème solaire et qu'on crève du cancer. Mais ça, c'est pas le sujet. On est là aujourd'hui pour fêter la vie. Oui, pas simplement une seule vie, mais 2, 3, 4, 1000 vies que l'on veut donner à nos objets. Oui, parce que c'est ça le réemploi. C'est le fait de réutiliser la vie d'un objet, que ce soit par une autre personne. Par exemple, Bertrand. Il est papa de trois adorables enfants, tous plus jolis les uns que les autres, selon les goûts bien évidemment. On m'a forcé à mentir. Tout ça pour dire que Bertrand a été utilisé trois fois à des périodes différentes, par trois personnes elles aussi différentes. Il y a aussi le réemploi par son utilisation. J'aurais pu encore citer Bertrand, mais je pense qu'il a eu sa dose. Là, pour le coup, cela peut être effectué par le recyclage de bouteilles plastiques, nous permettant de composer un autre objet. Mais ce 2 avril au 3 mâts, nous mettons à l'honneur la première définition du réemploi, avec le troc, la bourse périculture et autres associations. L'intérêt du réemploi est d'éviter la consommation massive en n'achetant que du neuf, et ainsi faire des économies, mais aussi protéger notre environnement.
Merci Nicolas pour cette belle introduction.
Merci.
C'est parti, on accueille les représentantes de la bourse Périculture. Quel est le concept de cette bourse, mesdames ? Vous pouvez commencer par nommer vos prénoms.
Alors moi c'est Elisabeth. Le principe de la bourse Périculture, c'est de réutiliser en fait les. On s'est rendu compte, on est toutes mamans en fait en tant que bénévole pour la bourse Périculture, et on s'est rendu compte qu'on avait plein de cartons de choses qu'on ne réutilisait pas, qu'on échangeait avec d'autres mamans, et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'on avait trop et puis que ça suffisait pas dans le cercle d'amis. Et la bourse Périculture est née de ça, en fait, de rencontres aux petites escapades d'abord, qui étaient organisées par le Trois-Mâts, et de l'envie de réutiliser tout ce qu'on utilise qu'une seule fois, en fait, pour nos enfants.
Et qui a l'initiative du projet?
Justement, un groupe de mamans. On s'est rencontrés aux petites escapades, qui était donc un temps dédié aux parents, qui était organisé par le Trois-Mâts. Ça permettait en fait de sortir de l'isolement. On était toutes mamans au foyer à ce moment-là. Et puis en discutant, en échangeant, en ayant envie de monter un projet ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait toutes dans nos cartons, dans nos maisons, dans un coin, quelque part, dans un placard, des choses qu'on n'utilisait plus mais qui pouvaient être utiles à d'autres mamans.
Et depuis combien de temps cette bourse existe ?
Alors bonjour, moi je m'appelle Sandrine et j'ai rejoint l'équipe initiale parce que moi j'arrivais, ça fait 7 ans, et j'arrivais dans le quartier. Donc il y a aussi un côté lien social, puisque je ne connaissais personne, et je suis arrivée avec mon petit garçon, et j'ai été très bien accueillie par toutes ces mamans qui étaient aussi, qui avaient besoin d'aide et de main-d'œuvre, parce que plus on est nombreuses et plus agréable c'est. Et voilà, on fait ça deux fois l'année, donc à chaque changement de saison, on va dire. Et voilà, ça fait. Alors, ça doit être là, au moins dixième ou. Alors, il y a eu une petite pause avec le Covid,
oui,
hein, évidemment.
Une pause avec le Covid, je ne saurais pas dire.
On doit au moins être à 10 éditions, je pense.
Deux par an.
Ouais.
Et là, dans ces 10 années, est-ce que vous avez senti une évolution du public, des changements, des moments qui étaient plus intenses que d'autres?
Alors, on a commencé tout petit. On a commencé aux petites escapades, petits endroits, petites salles et peu de choses. Finalement, c'est nous qui alimentions surtout les articles. Et puis on a grossi. Et effectivement, on se rend compte que beaucoup plus de monde joue le jeu. On est de plus en plus connus. Et aussi, j'ai l'impression que c'est aussi rentré dans le quotidien des Angevins, le réemploi. Donc on a grossi, on a de plus en plus d'articles à proposer. D'ailleurs, on se diversifie. On faisait pas de livres avant, on en fait aujourd'hui. Et on se rend compte qu'on a et des personnes qui ont besoin de vendre et aussi beaucoup de personnes qui ont besoin d'acheter.
On a changé notre façon de communiquer aussi. Enfin, on s'est aguerri à la pratique et on s'appuie aussi sur les réseaux sociaux. Ça a quand même changé ces dernières années. Donc, c'est vrai que Facebook nous aide aussi pas mal, je pense.
Et comment ça fonctionne du coup? Par exemple, si moi j'ai des enfants, j'en ai pas, mais et j'ai des vêtements à vouloir donner, comment je m'y prends?
Alors, tu ne les donnes pas, tu les vends.
Oui, je les vends. Pardon, je suis trop, trop généreux.
C'est ça. Tu viens chercher déjà une liste aux trois mâts, une liste vierge. Chaque personne a le droit à combien d'articles?
Alors,
combien
c'est 12, deux listes de 12 vêtements et une liste de 12 livres ou jeux par famille.
Et donc, tu préfères par chez toi tes petites étiquettes sur tes petits vêtements, tu fixes ton prix et tu viens le vendredi déposer tes articles. Tu nous les confies pour qu'on les vende. Et puis, on les vend le samedi matin et on te rend tes invendus le samedi après-midi.
D'accord.
Et on prend 5% de tes ventes.
D'accord, ça marche. Et que faites-vous de ces 5%?
L'objectif aussi de la bourse, c'était une envie de faire quelque chose ensemble entre les parents. Sandrine, tout à l'heure, parlait de lien social. C'était l'envie de faire des sorties, ensemble, ce qui n'est pas toujours possible à notre initiative. Et du coup, l'argent récolté permet de mettre en place une sortie avec les différentes familles qui se sont investies dans la bourse.
La dernière en date étant Center Park, juste avant le Covid, au Bois Audin, pas très loin d'ici. Donc on est tous partis en car un samedi matin, les enfants, les papas, les mamans, et pour certains d'ailleurs, enfin, on rencontrait les papas pour la première fois, parce que tout repose quand même beaucoup sur les mamans. Et c'était une journée super.
Sandrine dit que tout repose sur les mamans, mais les papas ont leur part parce qu'ils subissent déjà le trier et la confection des étiquettes. Et puis, pour celles qu'ils peuvent, parce que sur la bourse, certaines viennent avec leurs enfants, puisque c'est une bourse familiale et on vient avec nos enfants et nos enfants participent au projet. Sandrine pourra le témoigner, son fils est très investi.
Il adore ça, c'est vrai.
Et d'autres, comme moi, aiment bien laisser les enfants à la maison. Et du coup, mon mari fait sa part dans ces temps-là. Parce que c'est un temps aussi pour moi. On choisit de le vivre chacune à notre façon.
Je reviens à la question précédente là, sur l'évolution de la participation des habitants. Est-ce que les nouvelles applications comme Vinted, est-ce qu'il y a une influence ou pas? Parce que j'imagine que comparé à il y a 10 ans, il y a d'autres formules de vente.
Oui, c'est plus rentré dans les mœurs. Avant, c'est vrai que le réemploi ou acheter des vêtements d'occasion, c'était réservé à des tranches de personnes qui étaient presque en difficulté économique. Mm-hmm. Et je pense que on est sorti de ce schéma unique. Et aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de la planète. Le côté financier est toujours là, heureusement. Enfin, c'est normal de toute façon. Ouais. Mais oui, on touche un public plus large. Ça s'est démocratisé et c'est pas tabou aujourd'hui de porter. D'ailleurs, aujourd'hui, moi aussi, je suis habillée en recyclage.
Ouais, carrément.
Vinted, c'est un moyen, mais ça suppose. Enfin, moi, j'avoue que Vinted, je ne vends pas dessus parce que ça me saoule de faire une enveloppe pour envoyer un pantalon. Donc, c'est aussi la bourse, c'est aussi un moyen de faire en gros et de ne pas avoir à aller envoyer les vêtements. Donc, ça, c'est complètement complémentaire.
Oui, puis ça reste plus local, plus direct. Mmh. C'est tout l'intérêt, oui.
Pas de transport.
Pas de transport, carrément. Nicolas?
Pour moi, c'était très bien, merci beaucoup.
Super, merci à vous deux.
Merci à vous.
Et puis bonne continuation, belle vente.
On y retourne avec plaisir. Il y a du monde ce matin et c'est chouette. Il fait beau en plus.
Center Park.
On va changer. On est en inspiration. Si vous avez des idées, on est preneuses.
Ah, vous savez pas où aller?
À la prochaine réunion, on va décider, mais on n'a pas encore.
Ouais, bon, il y a matière.
On espère en tout cas. Merci beaucoup.
Merci.
Bon week-end.
Merci.
Vous restez avec nous. On est toujours à la journée du réemploi aux trois mâts. Mais avant d'accueillir une autre association qui prend part à cette journée, on va se passer un petit morceau, Nicolas.
Oui, et c'est un chanteur en juin, Jamie Gallienne, avec Sophisticated Animal.
C'est parti, à tout à l'heure. I travel the seas, the skies and sands. I'm at home wherever I land. I bet on anything I can. One day, love me, deal me a good hand. I smoke ciggies to look real cool. I put on makeup to look my best. Drink stuff I hate just to impress.
Merci Radio G pour la diffusion de cette émission qui permet de valoriser les initiatives habitantes, notamment sur le thème de la transition écologique.
Et nous continuons sur cette journée de printemps du réemploi et aujourd'hui nous accueillons l'association Place au Vélo.
Bonjour.
Bonjour.
Françoise Coste, coprésidente de Place au Vélo. L'autre coprésident s'appelle Nicolas Marty. Voilà.
D'accord, très bien. Et qu'est-ce que la Place au Vélo, l'association ?
Alors, l'association Place au Vélo est une association qui vise à développer l'usage quotidien du vélo et de la marche à pied hein, pour essayer de contribuer à diminuer nos impacts sur l'environnement et retrouver aussi une activité physique. Le vélo et la marche à pied, ça a beaucoup d'avantages.
C'est pas faux. Et vous êtes localisé où, sur Angers ?
Alors, nous avons un local 6 boulevard Olivier Couffon, donc à la Baumette, mais nous intervenons à l'échelle de l'agglomération d'Angers. Donc, nous pouvons avoir des interventions comme ce matin ici, mais aussi dans toutes les communes de l'agglomération.
D'accord.
Et par semaine, ça fait combien d'interventions ?
par semaine, il y a des activités régulières comme la vélo-école qu'on fait ici au Trois-Mâts.
D'accord.
Tous les mardis matin et jeudi soir. On a des activités ponctuelles comme celles qu'on fait aujourd'hui sur des actions de petites réparations, de marquage, d'information. Ça, c'est beaucoup au printemps et en début d'automne. Et puis, on a embauché une salariée depuis le mois de mai de l'année dernière qui va faire de la formation dans les écoles, dans les entreprises, dans les collectivités. Voilà. Donc, elle a des activités pas beaucoup plus régulière pour l'instant parce que ça dépend des contrats qu'on obtient. Mais voilà. Puis après, on a des actions de type associatif, c'est-à-dire des actions collectives qui peuvent être des actions sur la voie publique de Vélorussion. Et on a des actions aussi de, on va dire, de travail avec les collectivités territoriales sur la question des aménagements cyclables. Donc, où est-ce qu'on a besoin d'aménagements, petits et grands, parce que tout se niche parfois dans les détails, hein, le petit trottoir à monter, la glissade sur les feuilles mortes, voilà. Hein, il n'y a pas que le gros aménagement d'une piste cyclable qui est important, les deux sont importants.
D'accord, très bien. Et depuis quand elle est présente sur Angers ?
Alors, cette association a été créée en 1996.
Voilà.
Voilà, donc elle a déjà...
26 ans cette année.
Voilà.
Et j'ai vu qu'il y avait un lien avec l'échelle nationale, c'est ça ?
Donc nous faisons partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération des usagers de la bicyclette, qui a maintenant 400 associations. Donc elle est tellement grosse qu'à l'échelle des Pays de la Loire, depuis 2 ans, a été créé un collectif vélo Pays de la Loire pour essayer d'avoir un échelon plus petit pour pouvoir se retrouver, mutualiser des connaissances, des compétences, des idées. Et donc là, on est une trentaine d'associations de la région pour essayer de mailler l'ensemble du territoire et d'avoir, pareil, des actions à l'échelle départementale ou à l'échelle régionale.
D'accord. Et vous êtes les seuls sur Angers ?
Alors, sur Angers, dans les associations FUB, il y en a 2 autres qui sont dans le collectif Vélo Pays de la Loire. Il y a SCO-Cyclisme qui fait une petite partie de formation auprès des enfants et des adultes. Et Vianova, qui est plutôt une association type entreprise de formation.
D'accord.
Voilà.
Et la petite question actuelle sur l'évolution du vélo. Depuis que l'association a été créée, il y a eu quand même une grosse évolution. Qu'est-ce que vous pensez des vélos électriques ?
Ah ben, les vélos électriques sont une solution,
ouais,
hein, pour faire plus de kilomètres en vélo. Ne pas arriver au travail en étant en sueur, pour un certain nombre de gens, c'est un problème. Ça permet de faire au moins entre 5 et 10 km pour aller au travail ou au sport, au loisir. Et là, même s'il y a une batterie, qu'on sait que les batteries, ça peut poser des questions, pour déplacer une personne, c'est une toute petite batterie. La même personne se déplaçant dans une voiture électrique, hein, c'est une tonne, il n'y a pas photo sur la masse qu'il y a déplacée. Voilà,
c'est
donc mieux vaut un vélo à assistance électrique qu'une voiture, électrique.
C'est pas faux.
C'est pas la meilleure solution, mais c'en est une au moins.
Ah, c'est pas la meilleure, mais si c'est... Enfin, tout le monde ne peut pas. Moi, la première, pour l'instant, j'y arrive encore, mais...
Oui, il y a une histoire de coût aussi.
Il y a une histoire de coût, donc il y a des aides. Hein, qui sont des aides de l'État, des aides de l'agglomération sur l'achat des vélos. Les coûts ont quand même pas mal baissé. Un vélo, ça dure longtemps. Voilà. Après, si c'est pour se dire « je ne peux pas faire 8 km le matin et le soir et donc je prends ma voiture », il n'y a pas photo, vaut mieux prendre un vélo. Et le coût d'une voiture, c'est 4000 euros par an. Et encore, sans compter les dernières augmentations... De l'essence et du gasoil, un vélo assistance électrique à l'achat, c'est entre 1000 et 2000 euros. Et après, bon, il faut recharger
encore,
la batterie.
Ils ont baissé depuis quelques années.
Oui, mais 1000 euros, c'est les premiers prix et ce n'est pas forcément les meilleurs. Mais ça n'a rien à voir.
Oui.
Voilà, donc il faut, faut tout mesurer.
C'est ça. Et je voudrais savoir une question plutôt administrative. Vous avez combien de bénévoles au sein de l'association ?
Alors, on a environ 300 adhérents et on va dire qu'on a une quarantaine de bénévoles actifs.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça que ça Il faut compter dans une association.
Ça marche.
La tranche d'âge, excuse-moi Nicolas, la tranche d'âge que vous côtoyez le plus dans vos interventions, c'est quoi ?
C'est tous âges.
Tous âges.
Il n'y a pas de catégorie. Quand on fait des statistiques, par exemple, sur les marquages qu'on fait régulièrement pour justifier du financement de l'agglomération, on retrouve toutes les tranches d'âge. D'accord. Et là, ça fonctionne. On voit très bien que, suivant les tranches d'âge, la communication passe soit par les sites internet, soit par les journaux, soit pour les plus jeunes, par Twitter, Facebook, donc les réseaux sociaux. Et du coup, ça permet de toucher toutes les tranches d'âge. Et il faut faire fonctionner tous les canaux, tous ces canaux-là.
Ok. Eh bien, merci beaucoup, Françoise.
Merci, Françoise.
Bien. Bonne journée à vous. Bonne journée.
Au revoir. On vous laisse un petit instant avec un groupe en juin, Salty Sweet Dogs, avec What I Do.
C'est parti.
Vous êtes bien sur Radio G, fréquence 101.5. Bonjour, nous sommes de retour sur le printemps du réemploi, en ce samedi 2 avril. Nous sommes aujourd'hui avec Hélène de Ripper Café. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Bonjour. On va vous poser quelques questions sur l'association et du moins sur l'action Repair Café. La première question, qu'est-ce que le Repair Café ?
Alors, le Repair Café, c'est un moment où on a, enfin pour la, nous, pour le moment, on a trois équipes. Tout ce qui touche au petit appareil ménager, la couture et la micro-informatique. Donc, en fait, les gens, soit ils ont un appareil qui est en panne, soit il est usagé et avant de s'en débarrasser, ils veulent être sûrs qu'il n'y a pas de possibilité de réparation. Et autrement, ça peut être aussi des objets. J'ai un objet, moi, qui m'a beaucoup marqué. Une dame assez âgée est venue avec une petite poupée en porcelaine, mais qui avait le pied cassé. Et elle expliquait qu'il n'y avait pas de valeur, mais que pour elle, si on pouvait lui réparer ce pied, et c'est vrai qu'au départ, l'équipe, quand ils ont regardé le style de réparation, ils l'ont envoyé d'abord à la couture, qui a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Et puis, ben, pour finir, il y en a un qui a pris, qui a eu son idée à lui, et qui a réparé le pied, qui a pu recoller, et honnêtement, ça ne se voyait pas. Et cette dame-là, elle aurait pu embrasser toutes les personnes concernées, je crois qu'elle l'aurait fait. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'appareils ménagers, on va dire. Hein. Ça va du grille-pain à l'aspirateur. Alors, en plus, ça permet aussi de donner des conseils aux gens, parce que des fois les aspirateurs, quand on l'ouvre, bien entendu, alors soit le sac il est plein, ça peut aussi arriver, mais des gens ne se rendent pas compte qu'il y a trop de poussière.
Donc nettoyage aussi, des filtres.
Voilà. Mmh. Et pour les machines, pour les faire repasser par les centrales vapeur, moi je sais que j'ai appris des petites techniques, hein, de laisser toute une nuit le fer dans du vinaigre et dans toutes les petits trous pour la vapeur. Eh bien, ça décape complètement. Donc, voilà, ça permet de découvrir des petites astuces et puis de pouvoir justement échanger. Et ce qu'on demande, par contre, à toutes nos rencontres, c'est que la personne, elle reste. Elle est là durant le temps de la réparation. Elle ne va pas à la bibliothèque, elle ne va pas faire ses courses, parce que ça permet de voir. Et il y a même notamment des personnes qui demandent, mais qui disent soit ils n'ont pas les outils, et ils demandent. Alors voilà, on explique, on prend une photo avant de tout démonter, au fur et à mesure du démontage, pour que la personne, éventuellement un jour, puisse le refaire par elle-même.
D'accord. Et du coup, c'est un temps qui dure combien de fois par mois ?
Donc, sur la maison de quartier, quand ça a été démarré, on a pris le principe d'un samedi matin par mois. On se pose la question si c'est suffisant. Alors, entre autres, ce qu'on va mettre en place, c'est, bon, par exemple, une personne, elle vient, hein, mettons, pour un petit radiateur, hein, comme c'est la saison. Et puis, il faut une pièce. Donc on dit à la personne le genre de pièce qu'il faut acheter. Enfin, l'équipe regarde si ça vaut le coup ou pas, mais souvent c'est bien. Donc les gens vont acheter la pièce et on est obligé de prendre un rendez-vous un mois après. Donc là, on est en train de mieux s'organiser pour pouvoir dire, mais là, toute l'équipe ne reviendrait pas, mais le samedi d'après, pouvoir terminer, notamment quand c'est un appareil de chauffage où c'est un peu urgent en ce moment. Quoi.
Donc là, le Repair Café, actuellement, c'est que sur prise de rendez-vous, on est bien d'accord ?
Alors, depuis la période de la Covid, on a eu très très peu de temps où il y a eu très très peu de permanences supprimées en fait, et donc l'idée avait été de prendre des rendez-vous et comme ça les gens venaient bien un par un et il n'y avait que la personne concernée au niveau de l'électroménager, parce que l'équipe des bénévoles, certains ne voulaient pas travailler avec le MAS, certains ne voulaient pas avoir des rencontres, hein, X raisons, et en fait ça a permis pratiquement sur les deux années d'avoir toujours un petit... enfin, c'était différent de ce qui existe maintenant, mais il y a toujours eu des possibilités de dépannage.
Donc Hélène, vous en tant que bénévole, vous y êtes depuis combien de temps dans le Repair Café ?
Eh bien là, on a eu l'occasion de regarder ça dernièrement et les premières réunions ont démarré en 2016.
D'accord.
Donc en fait, on a fait le premier bilan sur 2016-2017.
Et pourquoi ce choix d'être bénévole dans le Repair Café et pas ailleurs ?
Ben, comme pour tout quand on est dans la vie associative, hein, je faisais partie de, je crois que ça s'appelait la commission sociale, il y avait eu une réunion, et justement un jour avec l'établi, il y a eu cette recherche, ça démarrait quoi, les repères café, donc la maison de quartier se posait des questions, donc au fil de l'eau ça a pris forme, il y a eu suffisamment de bénévoles. Moi j'avais aucune compétence technique à donner, mais par contre je me voyais bien faire l'accueil. Donc ça s'est fait comme ça, et puis je l'ai fait parce que c'était organisé par la maison de quartier. Je l'aurais pas fait si ça avait été organisé par une structure, parce que je trouve que c'est important, ça fait partie d'une animation. Et puis bah il y a quand même tout un contact qui est avec les salariés, enfin
oui, c'est clair que l'accueil, c'est... je vous voyais tout à l'heure en train de répartir les rendez-vous. Oui, c'est
faut, ah ben c'est chaud des fois,
il faut
oui,
que ce soit bien mesuré, ouais.
Un petit peu moins du fait qu'il y a des rendez-vous, donc là maintenant ça se sait que c'est reparti, des gens viennent sans rendez-vous, donc bon, on essaye un petit peu de caser tout le monde. Jusqu'à présent on l'a fait, mais alors le côté rendez-vous, ça a le côté aussi sympa, parce que juste avant la Covid, on était dépassé. On arrivait à dépanner 35. Vous vous rendez compte, il y avait 35 personnes qui passaient. Mais bon, l'équipe était plus étoffée qu'elle l'est maintenant. Et on trouvait que ça devenait presque...
industriel.
Voilà, il n'y avait plus trop de temps de discuter. Ça, c'était un peu à la chaîne, quoi. Les gars du petit électroménager, ils levaient la tête. Hop, c'était un autre qui arrivait. Ouais. Donc, ce côté rendez-vous à ce côté qui est quand même plus... Les gens n'attendent pas trop longtemps. Notre débat en ce moment, c'est de dire, est-ce qu'on laisse les rendez-vous ? Est-ce qu'on... On n'est plus que le seul repère café au trois-mâts à prendre sur rendez-vous.
Et maintenant, vous pensez que la définition du repère café est bien identifiée par les habitants ?
Oui, enfin...
Ils considèrent ça comme un... pas seulement un service, mais de l'échange, du conseil, ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, quoi. Les gens nous disent souvent partant qu'ils remercient, puis qu'ils aiment bien l'ambiance. Ils aiment bien l'ambiance, ça, ils le disent. Hein,
c'est un moment de convivialité.
Et puis, voilà, alors que tout le monde ne le sait pas forcément. Moi, je sais que dernièrement, j'ai encore eu l'occasion d'en parler avec des gens. Mais oui, tous les gens qui ont... L'avantage, c'est un samedi. Il y a les filets solidaires, il y a la bibliothèque, ça fait quand même... aussi beaucoup de gens. Bon, puis c'est un petit peu le rôle de l'accueil quand il y a des gens qui s'arrêtent, qui découvrent, hein, et pour la couture notamment, c'était pas prévu au début dans le repère café, et on s'est vite rendu compte que c'était nécessaire pour un ourlet, une poche qui est déchirée, une fermeture éclair.
Surtout s'il y a des personnes compétentes dans ce domaine, autant
en profiter.
Et puis
voilà, donc là elles sont plus que deux, mais elles étaient trois au départ.
Très bien.
Voilà.
Et ben merci beaucoup Hélène pour cet échange.
Merci Hélène.
Eh bien merci et bonne continuation pour vous.
Merci
Paris. Vite. Allez, petite pause musicale avec le groupe Lojo, à côté du paradis.
J'habite à côté du paradis, un palais imparfait qui donne sur la guerre. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'ai planté mes rythmes créoles, des arômes polyrythmiques, des petites fleurs pentatoniques.
Les beautés sont si fragiles et si secrètes, ont leur façon de se taire, de lire toute magie à leur cause, ont leur façon de se taire.
À la fête des vivants, au règne des choses imparfaites, j'étais là.
Andonia, 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 Andonia.
J'habite à côté du paradis, un palais imparfait qui donne sur la guerre. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'y récolterai des bouquets d'hymnes, des aurores métisses. Et le pollen de mes plantes insoumises s'en ira par la mer ensemencer d'autres friches.
Les beautés sont si fragiles et si secrètes, ont leur façon de se taire, de lier toute magie à leur cause, ont leur façon de se taire.
Connivence sacrée, voilà ta bouche extrême aromate, je suis ton corps jumeau. Aridité, je suis ta langue pour des cultures d'ondes millénaires. À la fête des vivants, au règne des choses imparfaites, j'étais là.
Andonia, 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 Andonia,
Vous êtes bien sur Radio G, fréquence 101.5.
Oui, donc nous sommes toujours cette journée du printemps du réemploi. Nous sommes avec l'association Troc un truc. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bah, je suis Mathilde Loisic, donc de l'association Troc un truc. En fait, le but de l'association, c'est de sensibiliser au réemploi et de favoriser le troc. Et donc l'idée là, c'est qu'on a un stand de troc où les personnes peuvent apporter un objet suivant différentes thématiques et après l'échanger contre un autre du stand. Et aussi à côté, il y a la roue des défis, donc où les gens peuvent tourner la roue, répondre à une petite question, un petit défi et après gagner un cookie ou un sachet de graines.
Alors j'ai testé moi la roue il y a 2 minutes là. La question c'était réemploi ou recyclage ? C'est quoi le mieux ?
En fait, c'est le réemploi, parce que si on reprend la définition des deux, donc le réemploi, c'est donc de réutiliser directement le même objet. Par exemple, on a une bouteille en plastique, on remet de l'eau directement, alors que le recyclage, c'est on broie la bouteille, on la transforme pour en faire un autre objet, mais il y a besoin de beaucoup plus d'énergie, et donc c'est moins.
D'accord.
Donc il n'y a pas de doute, allons-y pour le réemploi.
Oui,
c'est ça. Bien. Et ça veut dire donc, sur ma définition, qu'elle était fausse.
Ah, oui. Bah on va rectifier le tir.
Et on va rectifier le tir. Très bien. Comment est venue cette idée de l'association ?
Oui, c'est ça. Bah, en fait, l'idée, c'était à la base, c'était la sensibilité écologique autour de, bah, en fait, pour l'écologie, le réemploi, surtout. Ça venait à la base donc dans toute la lignée, parce que j'avais déjà un petit peu un projet au collège et donc pour le gaspillage alimentaire, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, j'ai été bénévole à l'association Solidary Food, puis dans une ressourcerie. Donc, à chaque fois, c'était pour continuer dans la lignée. Et puis après, c'était donc est venue l'idée de proposer un projet au budget participatif de la ville. Donc, il a remporté le premier prix. Donc, c'était la tente de troc. Et donc, c'est ça, c'est... Donc voilà, c'est le projet que...
Bravo, bravo à vous, bravo à toi Mathilde. Du coup, ça fait combien de temps qu'elle a créé cette association ?
Ça fait depuis l'année dernière, donc c'est le but de sensibiliser au réemploi et favoriser le troc.
Et il y a beaucoup de gens qui sont sensibilisés par le troc, justement. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes ou est-ce que c'est vous qui les démarchez éventuellement ?
Oui, c'est ça. Bah là, en fait, on fait des petites animations en attendant la mise en place de la tente sur le marché. Et donc, en fait, on essaye au maximum que les gens soient le plus informés possible sur le troc, le réemploi, les solutions avant de jeter.
Voilà, et vous adressez à un public plutôt jeune, de tout âge?
Oui, c'est tout public. Toutes les personnes qui veulent peuvent venir pour troquer, pour échanger avec nous, répondre à des petites questions.
Et quels sont les objets les plus demandés ou peut-être les plus échangés, on va dire?
Oui, c'est ça. Bah, en fait, on a 5 thématiques sur le marché qui n'est pas encore mis en place. Donc, on a les livres, le fait maison, les objets de la cuisine, les jeux et aussi les... Le fait maison?
Non.
J'ai déjà dit.
Les graines.
Oui, les plantes et les graines, voilà. Et donc, ici, là, donc, au printemps du réemploi, on a juste les 3 thématiques. Donc, on a les livres, les objets de la cuisine et le fait maison. Et en fait, c'est vrai que les plantes sont pas mal prises, mais donc, en fait, ça fait beaucoup évoluer le stand. Et donc, c'est plutôt intéressant.
Et du coup, quand est-ce qu'on vous revoit prochainement sur Angers?
Donc là, il y a une prochaine animation au café intergénérationnel de Karma le 8 mai. Et donc, ce sera au café Le Welcome à Angers. Et donc, si vous voulez passer faire un tour, discuter donc, avec l'association et troquer encore.
Ok, écoutez.
Est-ce que vous avez un site
Oui, c'est ça. En fait, on a une page Facebook de Troc un Truc. Donc, il y a toutes les informations si vous voulez. Voilà.
Ok. Et,
on a juste à mettre Troc un Truc.
Oui, c'est ça, dans Facebook. Et voilà, il y a la page.
On aura toutes les infos.
En sachant que le 1, c'est un chiffré, non pas.
Oui, c'est ça.
En lettres.
Et sur la page Facebook, en admettant que les gens arrivent à entrer en contact, comment ça se passe par la suite alors?
C'est ça. Bah, en fait, ils peuvent nous poser toutes les questions pour le Troc. Et puis.
Les gens peuvent proposer des choses aussi directement sur votre page Facebook ou entrer entre eux en contact?
Bah, en fait, l'idée, c'est plus de se regrouper sur des lieux en réel. Donc, par exemple, des animations pour l'instant. Et puis après, quand le stand sera mis en place, donc sur le stand où les gens pourront plus échanger.
Donc, ces lieux en réel, vous envisagez de les développer sur Angers?
Oui, c'est ça. Bah, en fait, le budget participatif, c'est plus pour le mettre à un lieu physique tous les samedis matins au marché Place Leclerc. Donc, pour que vraiment il y ait toujours un rendez-vous qui soit hebdomadaire à chaque fois, qu'on sache que Troc un Truc sera là. Enfin, sauf si des fois il y a
des événements incroyables comme celui d'aujourd'hui. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, Mathilde, pour ton échange.
Merci à vous.
Et puis, n'hésitez pas à troquer pour une vie plus saine. On continue sur notre lancée. Et aujourd'hui, nous accueillons les Jardins de la Treille. Bonjour.
Bonjour.
Bah, vous pouvez commencer par vous présenter.
Je suis Charlet. Je suis jardinière. J'ai un jardin aux trois paroisses, enfin à La Pantie plus précisément, depuis une dizaine d'années.
D'accord.
Et je suis aussi membre du conseil d'administration de l'association.
D'accord. Et qu'est-ce que l'association, du coup, qu'est-ce qu'elle propose?
Alors, elle propose de mettre à disposition des jardins pour des particuliers qui veulent jardiner, produire leurs propres légumes et des fleurs, et puis aussi rencontrer d'autres personnes. Elle gère toute la logistique de ces jardins. On est quand même sur 3 sites différents. Rien qu'à La Pantie où je suis, il y a 70 jardins.
D'accord.
Donc, il y a beaucoup de monde.
Oui.
Il faut tout organiser, bien sûr, et puis s'assurer que tout se passe bien au niveau des relations entre les jardiniers. Participer aussi à l'échange de savoir. Il y a des gens qui débutent, d'autres qui sont là depuis très longtemps, qui ont besoin de conseils. Mmh. Et des gens aussi qui sont parfois débutants, mais qui ont des bonnes idées aussi pour amener des choses nouvelles, pour changer un petit peu les façons de faire les cultures.
Oui.
Par jardinier, en fait, chaque jardinier a quelle parcelle en surface? C'est conséquent?
Ça va de 200 à 100 mètres carrés à peu près.
Ah oui, donc oui. C'est...
Avant, il y avait beaucoup de jardins qui étaient très conséquents, de 240 mètres carrés. Et de plus en plus, on assiste à une séparation des grands jardins en 2 petits jardins. Il y a beaucoup de gens qui veulent un jardin, mais qui n'ont pas forcément non plus le temps de faire des très grands potagers comme on faisait dans le temps. Mmh. Donc on est de plus en plus nombreux.
Et un jardinier qui souhaite avoir une parcelle, est-ce qu'il y a des conditions de base du type zéro traitement ou...
Alors ça, c'est une condition générale qui est inscrite dans la réglementation, c'est-à-dire pas D'accord. de produits interdits. Après, il est libre de faire son jardin comme il veut. Certains le font, vous savez, sous le principe des grandes rangées, des grands rangs, d'autres qui font dans des bacs. Quand je dis bac, c'est des bacs en bois séparés. Oui. Chacun, il y en a qui font plus permaculture.
Oui, c'est ce que je voulais vous soumettre. Ouais.
Voilà.
Ok.
De plus en plus.
Oui.
De plus en plus, il y a le paillage, par exemple, des choses comme le paillage qui ne se faisaient pas avant. Mmh. On a été quelques-uns à initier ça et pour éviter justement de trop consommer d'eau. Mmh. Pour éviter les mauvaises herbes aussi.
Oui.
Ça évite de mettre des produits qui sont nocifs.
Oui.
Donc les choses évoluent. En 10 ans, moi, ça fait une dizaine d'années que j'y suis et je vois les choses qui évoluent. De plus en plus de paille, de plus en plus de bacs pour composter les déchets, des choses comme ça.
D'accord.
Et où sont situés les différents sites des jardins?
Alors les sites sont... Il y en a un qui est à Saint-James, sur Loire. Et les deux autres sont du côté de la clinique de l'Anjou.
Ok. Donc dans l'agglomération angevine.
Oui, l'agglomération, oui.
Ouais. Oui. D'accord. Et du coup, ça a été créé il y a combien de temps, cette association?
Bonne question.
Oh là.
Ça fait très longtemps. Oui. Il y a au moins 30 ou 40 ans, parce qu'il y en a des jardiniers qui sont là depuis 40 ans.
Ah oui, ok.
Il y a une adhésion annuelle
Alors,
comment ça se passe?
Il y a une adhésion... Il y a une adhésion à la Fédération des jardiniers. Il y a une fédération. Hein. L'adhésion est de l'ordre de 4 euros, je crois.
4 euros, c'est ça.
Et ensuite, on paye le loyer selon la surface de son terrain.
D'accord. Ils sont à quel prix, à peu près, ces loyers?
Alors, moi, pour 100 mètres carrés, je paye 50 euros pour l'année.
Pour l'année, ok. Oui, ouais. C'est assez raisonnable.
C'est en fonction de la surface, quoi.
J'imagine. Voilà, c'est en fonction de la surface, oui.
Et ça comprend l'eau?
Ça comprend l'eau, oui.
D'accord. Okay.
Voilà. Pour ça qu'on fait des gros efforts, justement, pour pailler, éviter de consommer de l'eau, beaucoup de bacs de récupération d'eau de pluie aussi, mm-hmm. pour ne pas consommer d'eau.
Ok.
Est-ce que vous avez des commandes collectives de graines? Vous allez vers ça ou pas?
Non.
Non, pas encore.
Non, il y a eu des commandes pour les plants de pommes de terre.
D'accord.
On fait des commandes groupées pour le fumier, qui vient d'une ferme bio de la région, mmh. Pour de la paille.
D'accord.
Là, on fait des commandes groupées.
Ok.
Sinon, il y a pas mal d'échanges de graines entre jardiniers ou de plants. Ou...
Ouais.
Il y en a pas mal, ouais. Ouais.
Ouais.
Et vous accueillez tout le monde dans cette association? Il y a des conditions? Il faut être en juin? Il faut être jeune, vieux?
Il faut être motivé. Il faut être motivé. Il faut rentrer dans dans l'esprit du jardin.
Dans le partage.
Le partage. Il n'y a pas de conditions d'âge ou de...
Ou de lieu d'habitation, par exemple.
Non.
Non plus.
Non, non, non. En général, c'est les gens qui sont quand même pas trop loin. Un jardin, il faut y aller très souvent.
Régulièrement, oui.
Régulièrement. Mmh. Il y a pas mal de travail en ce moment. Ensuite, il va falloir planter. Ensuite, il va falloir arroser. Il faut désherber. Alors, si vous habitez trop loin, ça va vous revenir très très cher en carburant. Et il vaut mieux trouver quelque chose plus près de chez vous. Donc, c'est plutôt des gens du...
Et par rapport aux récoltes, est-ce que vous les vendez ou est-ce
non,
que...
Interdiction.
Non, interdiction.
Interdiction de les vendre.
Ok, c'est du...
Ouais, je donne par contre.
Okay.
On est nombreux à donner, mm-hmm. Que ce soit à d'autres jardiniers. Moi, j'ai un très grand pommier qui m'a donné 100 kilos de pommes l'année dernière. Donc, j'en ai donné à d'autres jardiniers, j'en ai donné à des amis, à la famille. Mais on a interdiction de vendre.
Okay. Là, actuellement, on est début avril. C'est quoi les missions les plus importantes d'un jardinier? Qu'est-ce qu'il doit faire dans son jardin actuellement?
Bêcher. Bêcher. On a fait rentrer du fumier, donc il faut l'enfouir. Il faut bêcher. Il faut commencer à tout préparer, c'est-à-dire s'assurer qu'on a par exemple tous les piquets pour les tomates.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est prêt? Mm-hmm. Vérifier les composteurs, les vider éventuellement s'ils sont pleins, pour intégrer tout ce compost dans la terre, désherber.
Mm-hmm.
On peut commencer à planter certaines choses. D'autres, il faut faire attention, parce qu'il y a des gels.
Oui.
Donc, hors de question de planter des tomates, bien sûr, en ce moment.
Ouais.
Oui, c'est ce que je voulais vous demander. C'est voilà. Quand la date
Alors, on parle toujours des saints de glace, c'est en mi-mai.
Il faut passer les saints de glace.
Voilà, il faut attendre qu'il n'y ait plus de gelée. Alors, on peut faire certaines choses sous tunnel.
Oui, mon père fait ça, par exemple.
Voilà, il y en a beaucoup qui font ça. Moi, je n'aime pas du tout, personnellement, parce que c'est du plastique. qui va se désintégrer avec le soleil et puis donc il y a des particules de plastique qui s'intègrent dans la terre, donc tant pis, je n'ai pas de salade pour le moment, d'autres non. Mais on peut mettre certaines choses comme des fèves, des petits pois qui ne gèlent pas.
Mmh. D'accord.
Dernière petite question technique, est-ce qu'il y a une solution pour le mildiou, pour les tomates?
Pratiquement pas.
Mais... Dommage.
Voilà, alors, il y a quand même une chose à savoir, c'est que c'est un champignon qui est dans l'air constamment, donc même essayer de brûler les plants qui sont malades, ça ne sert pas à grand-chose.
D'accord.
La meilleure chose à faire, le mildiou, il est sur la terre, c'est de pailler épais et de ne pas enlever la paille et de planter vos tomates ailleurs. Parce que la paille va retenir le mildiou au niveau du sol. Elle va éviter que le vent le transporte.
Mm-hmm.
C'est surtout ça qu'il faut faire pour pas que, si vous avez eu du mildiou une année, ne pas en avoir l'année d'après.
D'accord, okay. Donc c'est le paillage qui maintient le mildiou et,
au niveau du sol.
Ouais. Et du coup, les tomates, il faut les mettre ailleurs.
Voilà.
Compris, Bertrand, pour ton jardin ?
C'est une bonne base. Croisons les doigts.
C'est un bon début.
Super.
Eh ben, merci beaucoup.
Je t'en prie.
Et je souhaite une bonne journée et merci pour cet échange.
Merci beaucoup.
Merci.
Et voilà, c'est terminé pour la journée du printemps. Ça s'est bien passé, Nicolas ?
Bah, plutôt bien. On a accueilli beaucoup de gens, beaucoup de partenaires et c'était un plaisir de pouvoir les recevoir et poser plein de questions.
Ouais, je pense qu'on a fait le tour de toutes les personnes qui étaient intéressantes avec leurs actions. Donc, merci à tout le monde et à très bientôt pour une prochaine émission.
On remercie Radio G pour la diffusion et puis à très vite. Au revoir. Tchuss.